En sol majeur, vous propose cette rediffusion avec Géraldine Tobé, La Flamme congolaise.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Il va faire nuit en sol majeur. Pendant cette conversation avec Géraldine Tobé, le soleil ne va pas moufter, il va s'éclipser. Il fera tout noir, avec un geste artistique plein de feu et plein de lame, dans une nuit congolaise totalement. Géraldine Tobé, 26 ans, ancienne élève de l'école des beaux-arts de Kinshasa, a une technique de travail très particulière qu'elle puise dans le feu. Le pourquoi du comment est brûlant, forcément. Présentée comme une artiste peintre à deux étincelles de la consécration internationale, car très remarquée lors de la Biennale de Dakar en 2018, avec elle, nous allons nous enfoncer dans le monde invisible des ancêtres et dans le Kinshasa du système K, c'est-à-dire dans le chaos recyclé d'une scène contemporaine en pleine créativité, mais à ciel ouvert. Et il se murmure dans ce chaos chaud bouillant que désormais, il n'y a pas de fumée sans la Tobé. Bonjour Géraldine Tobé.
Bonjour Yasmine.
Alors ce que je vais vous dire est en fait très positif. Vous avez 26 ans, vous êtes toute jeune et on dirait en même temps que vous êtes et très jeune et très vieille. Est-ce que vous avez cette sensation?
Ben oui, bien sûr que oui. On m'a toujours dit que je suis jeune corporellement, mais mon esprit, c'est un esprit d'une vieille personne.
E comme exorcisme.
Vous dites, Géraldine, en fait, que votre peinture est un travail autobiographique et même une thérapie.
Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que quand j'étais enfant, il y a eu une période dans notre famille où on était taxés pour des enfants sorciers. Nous étions obligés de passer par des délivrances pour que nous nous soyons délivrés de la sorcellerie. Alors, tout en étant jeune gosse, ce sont des histoires qui m'est toujours restées dans la tête. Alors, quand je grandis, quand je fais l'humanité artistique et puis je suis allée au supérieur à l'Académie des Beaux-Arts, je fais la peinture comme formation, donc je suis peintre de formation. Mais après, moi personnellement, j'étais vraiment calée parce que je voulais aller vraiment dans l'au-delà de la peinture, parce que je me sentais étouffée de tout ce que j'avais vécu quand j'étais enfant.
C'est-à-dire, au départ, dans une famille qui a des problèmes, c'est souvent sur le terreau des difficultés, de pauvreté, de misère. Quand une famille a des problèmes familiaux, de travail, chômage, divorce, etc., elle voit dans l'enfant une sorte de bouc émissaire.
Voilà. Et aujourd'hui, on retrouve beaucoup des enfants sorciers dans la rue. Et si on essaye de suivre de près leur histoire, vous allez écouter que voilà, moi, ma mère était décédée. Après, ma belle-mère, elle a dit que je suis un sorcier. Et puis voilà, patati patata. Donc, les Congolais, parce que nous, les Congolais, on est très religieux. Alors, l'évangéliste ou le pasteur, il doit trouver un bouc émissaire par où il va se poser. Il paraît-il, selon les pasteurs, on était des grands maîtres et des grandes maîtresses dans le monde de la sorcellerie. On devrait d'abord nous incarcérer dans une pièce pour faire ces processus de délivrance. Et alors, je me rappelle, on restait dans une pièce où on allumait l'encens et la fumée de l'encens s'est propagée dans toute la salle. Et pendant la nuit, nous étions obligés de dormir auprès des bougies. Alors, comme les pasteurs l'expliquaient que voilà, ces bougies-là vont nous empêcher de ne pas s'envoler la nuit. Alors, le plus grand bouc émissaire pour le pasteur, c'était aussi le dessin que moi et mon frère on faisait. Parce que quand j'étais gosse, moi je n'ai jamais pensé à l'art. Donc, la personne qui envisageait d'être un artiste, c'était mon grand frère qui est malheureusement un handicap mental. Alors, ça arrivait beaucoup où ils faisaient des dessins qui étaient inexplicables. Alors pour les pasteurs, c'était des fantômes qui.
C'était des codes.
Voilà, des codes. Voilà.
On était dans l'ésotérisme pour eux. Alors de cette expérience que vous racontez rapidement, mais qui est une véritable expérience traumatisante pour l'enfant que vous êtes à ce moment-là, incarcéré, dites-vous, dans une salle au milieu d'encens, de bougies, De cette expérience, vous allez en tirer votre propre style d'artiste peintre.
Tout à fait.
L'avez trouvé exactement, ce style, Géraldine Tobé?
Avant que je commence, Yasmine, j'aimerais vous dire quelque chose que moi, personnellement, ces expériences, c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La personne que je suis, je marche vers la gauche. Donc, ça veut dire que je ne prends pas la même route que les autres. Donc, moi, je m'inspire de mes drames, de mes limites, et j'en fais une source d'inspiration. Alors, je suis partie faire le Beaux-Arts, croyant que là-bas, j'allais me retrouver dans ma place. Je n'étais pas la bienvenue à l'Institut des Beaux-Arts, parce que mon enseignant de la peinture, il m'avait dit tout au début que je dois changer d'option parce que j'étais nulle et je ne serai jamais un artiste. Et avec les temps, comme on dit, en forgeant qu'on devait forgeron, oui. J'étais devenue meilleure dessinatrice et meilleure peintre de ma génération.
Alors, ça veut dire quoi, marcher à gauche, pour reprendre votre belle expression, quand on est une artiste? Comment vous trouvez votre style?
Ah d'accord, ça c'est une très très belle question. Quand je dis que je marche à gauche, ce qui est prévu pour que les gens empruntent ce chemin, moi je vais toujours à la contre. C'est ça, marcher à gauche. Et d'ailleurs, je suis aussi gaucher. Alors, à l'humanité artistique, je fais la peinture. Arrivant sur le supérieur à l'Académie des Beaux-Arts, j'avais continué avec la peinture. Alors, dans l'art contemporain, j'avais appris que faire de l'art, ça n'a rien à voir avec la peinture. Alors, je n'arrivais pas à m'en débarrasser de la peinture. Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, je dois commencer d'abord par tuer le maître. J'ai pris l'étoile, j'ai dit je vais détruire et puis je verrai bien si je vais construire, reconstruire après.
Vous avez détruit vos propres toiles?
Voilà. Je les ai tous sorties et puis j'ai mis du feu. Comme l'étoile a été réalisée avec des produits chimiques, il y avait de la fumée et un grand feu qui s'est dégagé. Alors c'est comme ça qu'il y a eu l'idée de récupérer l'énergie en fait. C'est comme si j'ai récupéré l'âme des toiles que j'avais détruites. Et c'est comme ça que je me suis mis dans la recherche d'étudier comment je dois commencer à utiliser le feu sur le toile, parce que ce n'est pas facile. Quand j'avais commencé, de temps en temps, il y a le feu qui prenait la toile, mais avec le temps, je suis maîtrisé comment orienter ça. C'est avec le temps que j'ai compris que la fumée, le feu, c'est juste ma vie ancienne, ma vie passée qui m'a rattrapée.
Géraldine Tobé, vous dites... D'ailleurs, très joliment, le feu est devenu mon pinceau et la fumée ma couleur. Donc, on va tenter tout à l'heure de décrire quelques-uns de vos incroyables tableaux cendrés. Mais après, nous être arrêtés justement au feu rouge avec un certain grand corps malade. Parce que vous aimez bien son slam.
Ben oui, mais bien sûr que oui. J'écoute beaucoup, beaucoup grand corps malade. Surtout son texte sur Sixième Sens, où il parle sur la vie des handicapés. Personnellement, ça me touche beaucoup parce que je dis que moi aussi, je suis un handicapé.
Ah bon?
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme Pactage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Trois mois de périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle, comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge.
Deux minutes de slam conscient au feu rouge avec Grand Corps Malade sur RFI, désiré en sol majeur par l'artiste peintre congolaise Géraldine Tobé, qui nous ramène un petit film. Elle a ça dans ses bagages, Bankishi, c'est-à-dire les esprits réalisés, je crois, dans son atelier, au milieu des bougies, qui éclairent et allument sa peinture. C'est un film où chante la voix de ses ancêtres.
Ndelela penye ntambo wa bangashama. Mema ndelela penye ntambo wa bangashama. Ndelela penye ntambo wa bangashama. Mema ndelela penye ntambo wa bangashama. Ntambo ndelela penye.
Comme esprit, es-tu là?
Où irais-je mettre bas, moi lionne, sœur de léoparde? À qui appartient cette voix qui chante et qui parle, Géraldine?
Oui, ce sont les voix de mes deux grands-parents décédés. La grand-mère, elle était décédée en 2018.
Angélique
Mujinga, oui.
Une louba du Kassai, comme vous dites.
Oui, oui, oui. Ma grand-mère, c'était une femme très intelligente et je dirais même c'était une bibliothèque vivante parce qu'elle ne sait pas écrire, mais dans sa tête, elle a beaucoup de choses. C'est elle qui m'a présenté le valeur ancestral parce que nous, la nouvelle génération, on n'a pas cette culture. On reste beaucoup plus sur nos téléphones, là ça nous arrange. Mais ce qui concerne de la culture, de valeur ancestrale, chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, une fois, voilà, je parlais avec elle. Alors, la voix de ma grand-mère, on appelle ça en Tchiluba, Kutenda. Kutenda, en français, ça veut dire appeler les esprits. Donc, c'est un rituel que ma grand-mère fait. En fait, c'est dans la tribu Luba. Parce que chez nous, les Bantous, les morts ne sont pas morts. Alors, comme les esprits ne meurent pas, ils vivent avec nous. Alors, de temps en temps, il faut s'occuper d'eux, qui veut dire qu'il faut leur donner à manger. Alors, quand on prépare à manger, on met sur la table, il faut avoir des codes qui vont permettre qu'ils viennent manger. Alors, ces codes-là, c'est les Kutenda. Les Kutenda, ça veut dire appeler les esprits, donc les Bankishi. Alors, c'est tout un rituel comme ça, avec des mots-clés, où, voilà, ma grand-mère, elle faisait ça. Alors, on a essayé un peu de faire la traduction pour que vous, puissiez un peu comprendre, mais c'est pas...
pour nous transmettre à nous voilà, aussi, voilà. Ouais, ouais. Et en quoi le savoir de vos ancêtres nourrit votre travail d'artiste?
Je dirais sur... le travail sur les ancêtres, ça nourrit beaucoup mon travail, parce que moi, je dis qu'étant qu'un artiste, notre force... et ma valeur, c'est ma tradition. On ne peut pas parler du futur si on ne sait pas à quoi est-ce que ça ressemble notre passé. Et la valeur d'une communauté, c'est sa culture. Donc, je m'inspire du passé pour construire le futur. Mm-hmm. Donc, c'est un peu le travail que j'étais partie faire au Musée Roi de l'Afrique centrale, à Terveren, où je fais ma recherche et ma création artistique sur les objets ethnographiques, donc des objets qui avaient des pouvoirs.
Quels objets, par exemple, et quel travail vous faites avec cet objet? Un masque, des masques,
voilà, j'imagine. Voilà, des masques, des statuettes qui jouaient un rôle de pouvoir, en fait, dans la communauté congolaise. Du coup, j'ai dit, moi, je vais me baser sur ça, parce que ma démarche artistique est basée sur moi et le moi en question, j'ai puisé cette démarche artistique dans un aspect spirituel. Et d'ailleurs, pour beaucoup des artistes qui m'ont précédé au Musée Terre Vérenne, moi je dirais que je suis la première artiste qui a voulu travailler avec des objets ethnographiques sur vraiment les valeurs spirituelles.
Alors vous êtes entourée de rituels, hein, apparemment Géraldine Taubé, et l'un de vos rituels lorsque vous travaillez, lorsque vous peignez, c'est d'écouter de la musique sacrée.
Oui,
pour quelle raison ? Du grégorien.
Oui. Je pense que chaque artiste a un petit secret qui lui permet de bien travailler. Il y a d'autres qui prennent de l'alcool, il y a d'autres qui fument. Il y a d'autres, je ne sais pas moi quoi, ils mangent beaucoup. Alors moi, je ne fume pas, je ne bois pas non plus de l'alcool, mais je fume beaucoup quand je travaille. Alors pour moi, mon secret, c'est la musique grégorienne. C'est une musique que personnellement, ça m'emporte, ça m'inspire beaucoup, ça me met un peu hors du physique.
Dans l'au-delà, comme vous dites.
Dans l'au-delà.
On va laisser couler un chant grégorien et puis tenter d'imaginer quelques-uns de vos tableaux faits avec de la fumée sur toile.
Voilà, par exemple, il y a une œuvre qui est juste devant moi où j'aurais présenté un religieux portait un masque. Pourquoi ? Parce que pendant ma résidence au Musée Terre Vérenne, ma recherche était basée sur le valeur spirituel ancestral du Congo. Et en même temps, je interrogeais aussi l'impact des missionnaires au Congo. Après, dans mes recherches, j'ai vu que les missionnaires avaient beaucoup contribué à l'évolution du musée Terre Vérenne parce qu'ils avaient reçu un message venant de Léopold. Alors, qu'est-ce que les missionnaires ont utilisé pour avoir nos objets, ces objets qui étaient nos valeurs ancestrales spirituelles? Les missionnaires ont utilisé la Bible, la religion chrétienne, en nous montrant que nos objets sacrés, c'était des objets païens qui possédaient des esprits mauvais. Donc, on devait mettre à côté pour nous donner ce qui était des objets sacrés. La Vierge Marie, une croix, ainsi de suite. En même temps, nos objets qui étaient considérés comme des objets de la sorcellerie a été repris pour les ramener en Europe. Alors, ce qu'il tire de la sorcellerie, et cela s'est transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, ça continue dans ma communauté congolaise. Moi qui vous parle, tout ce que je fais comme objet d'art est considéré des histoires de fantômes, de la sorcellerie.
Comment vous l'avez représenté, si j'ose dire, ce pasteur ou ce religieux? Je le trouve très effrayant. Hein, mais il a quelque chose d'effrayant, non? On dirait un fantôme lui-même.
La fumée que j'utilise elle-même, elle est très puissante. Et le choix de couleurs, par exemple, j'avais utilisé des collages, des masques en noir et blanc, parce que les Européens présentent nos objets sacrés comme des objets esthétiques. Or, en réalité, chez nous, dans mon pays, ces objets, ce n'étaient pas des objets d'esthétique, mais des objets, des rituels qui jouaient un grand rôle dans la communauté. Alors, c'est la raison pour laquelle je fais ces choix de travailler avec des masques en noir et blanc posés justement sur un corps d'un religieux. Je n'ai pas déterminé. Et justement, c'est un travail qui questionne un peu. Je questionne un peu c'est quoi le rôle de la religion en fait.
Autre tableau.
Je me suis inspirée de la Renaissance, du statut de la Renaissance africaine à Dakar quand j'étais partie à la Biennale.
C'est-à-dire qu'on voit une femme, voilà. Un homme, et assis sur le bras de l'homme, un enfant qui pointe l'horizon.
Voilà. Ces œuvres, c'est un diptyque. Donc, cet enfant, il pointe son doigt vers cette œuvre.
Vers le pasteur, alors.
Voilà, vers le pasteur. La femme, c'est la femme qui porte le masque. Pourquoi ? Parce que j'avais découvert que dans la tradition ancestrale congolaise, les femmes étaient réservées de tout ce qui était sacré. Hein.
Donc, écartées.
Voilà, écartées. Alors, les rituels se faisaient entre hommes, ce sont les hommes qui portaient les masques, ainsi de suite. Et en même temps, c'est une question que je me pose. Pourquoi il y a tant d'interdictions sur la femme que chez l'homme ? Dans la loi Luba, cette loi condamne beaucoup plus la femme et ça place l'homme dans une position confortable. Alors, dans mon monde, j'ai dit, voilà, moi je décide que c'est la femme qui va porter les masques. C'est un travail pour continuer une sorte de recherche avec des chefs coutumiers. Ils vont nous expliquer pourquoi, voilà.
À bon entendeur.
Voilà.
Autre tableau, dernier tableau.
C'est un tableau que j'ai intitulé « Le cri du silence ». Alors, ça fait partie d'une série que j'avais réalisée pendant l'instabilité politique au Congo, avec le président, ainsi de suite, toutes ces histoires-là.
Kabila, vous parlez
oui,
de Kabila.
Kabila, oui, d'accord. Oui, oui. Où les gens marchaient, il y avait l'Église catholique qui était à la tête, et puis il y avait des jeunes qui étaient voilà, sortis. Mais après, ce que moi me dérangeait beaucoup est qu'on ne faisait pas face aux policiers, mais aux militaires qui tiraient à bout portant sur la population. Donc, nous, à Kinshasa, on n'a pas droit à revendiquer quelque chose. Et moi, ça m'avait vraiment fait très mal. Parce que chez nous, on nous tire à bout portant.
Donc, alors, qu'est-ce que vous avez peint ?
Alors, du coup, je peins une femme qui marche avec le sang sur sa main, évidemment, pour illustrer tous ces jeunes filles et des jeunes garçons qui ont croisé la mort pendant ces manifestes.
C'est drôle parce que vous dites « j'ai peint une femme », mais moi je vois effectivement des corps enchevêtrés avec en toile de fond éventuellement des crânes. C'est
oui,
ce que je crois reconnaître.
En fait, oui, des crânes, ça représente toutes les personnes qui ont croiser la mort pendant ces manifestations. C'est la raison pour laquelle je l'ai intitulé « Le cri du silence » parce que pendant que je faisais cette série d'œuvres, il y avait des militaires qui étaient venus me voir dans l'atelier, en fait. Ils sont apparus brusquement parce que pendant cette période, on vivait dans la peur, dans la terreur parce qu'on ne savait pas ouvrir notre bouche pour parler. Alors du coup, de temps en temps, j'avais des militaires derrière mon dos et des gens de l'ANR, évidemment, pour vérifier qu'est-ce que je faisais, ainsi de suite.
Comme alors, quoi, la situation politique, vous parlez, vous faites référence effectivement à la gouvernance de Laurent-Désiré Kabila, vous venez de le rhabiller un peu pour l'hiver. Mais c'est vrai que ce que vit le pays politiquement, les années Kabila par exemple, cette chose politique, elle occupe plus qu'inconsciemment l'artiste que vous êtes.
Oui, mais non, les Kabila dont je parle, c'est les Kabila, le fils, le plus grand président.
Chacun de ces tableaux, ils sont donc tous faits avec de la fumée sur toile. Alors quand on a dit ça, on n'a rien dit. Il faut vous voir dans votre atelier manipuler une bougie et peindre au plafond ce qui va devenir effectivement des toiles racontant ou représentant un religieux, etc. C'est une prouesse à la fois technique et physique très dangereuse.
Oui, beaucoup, beaucoup trop dangereuse, surtout pour moi, pour ma santé. Je me rappelle en 2015, j'étais gravement brûlée par le feu. Donc je suis renée de cette expérience du flamme. Mais après, c'était très, très grave. J'étais vraiment à la mort. Et après, quand je me suis rétablie, voilà, comme d'habitude, je me suis encore inspirée de mon accident.
Mais c'est fascinant parce que finalement, c'est de ces expériences traumatisantes, les brûlures, les expériences de cérémonie d'exorcisme enfant en tant qu'enfant sorcier, c'est de ces expériences que vous tirez votre inspiration, c'est-à-dire que vous soignez le mal par le mal.
on peut dire ça donc, parce que tout au début, je vous avais dit que je marche sur la gauche. Voilà, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé.
Dans le feu et dans la nuit. Pourquoi la nuit ?
le travail du feu, c'est une art thérapie pour moi, pour Colani, parce que tout a été commencé avec l'étape de délivrance qui se faisait la nuit. Parce que quand je travaille, à la limite, moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que je fais en réalité. Je me laisse emporter par des esprits, ainsi de suite. Bon, voilà, donc la nuit, ça marche bien.
Vous êtes née en, on ne l'a pas encore dit, Géraldine Tobé, vous êtes née en 92, donc en RDC. Et les mots-clés, je dirais, de votre enfance, c'est fleuve Congo et pirogue. Que vous rappelle le fleuve Congo, Géraldine?
Ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle et ça va toujours me rappeler ma mère. Nous, on a grandi qu'avec notre maman, qui était en même temps papa et maman. Alors notre maman, elle a passé toute sa vie sur le fleuve. Donc c'est une femme commerçante. Alors elle a acheté des choses à Kinshasa pour aller les vendre au Congo-Brazza. Mais seulement comme c'était une femme très pauvre, elle n'était pas en mesure de payer le loyer pour aller sur une voie légale. Alors du coup, elle voyageait que la nuit. Alors la nuit, elle utilisait la pirogue. Elle était obligée de s'allonger dans la pirogue pour s'échapper aux douaniers, les marins. Quand les marins verront un pirogué, ils vont directement se dire, voilà, il y a un pirogué qui a ramassé le corps d'une femme dans le fleuve. Alors, il y a une fois, notre maman était rentrée, elle pleurait, elle nous a serré très très fort dans ses bras en nous disant que voilà, mes enfants, j'ai failli vous laisser aujourd'hui parce que j'ai été renversée dans le fleuve. C'est là, c'est produit 3 fois. Alors, du coup, j'ai posé la question à ma mère si elle était obligée de prendre tous ces risques. Alors ma mère m'a regardée en larmes et m'a dit oui, elle est obligée parce que si elle ne fait pas ça, je ne vais pas aller à l'école. C'est une phrase qui m'a envoûtée. Alors de temps en temps, quand ma mère, elle part, je me disais toujours que... Je priais à ce qu'elle revienne parce que j'ignorais si elle allait revenir sur la terre ou bien elle allait rester dans le fleuve.
Alors, il n'y a pas que la pirogue maternelle hein, dans votre décor congolais. Il y a aussi l'arrivée au pouvoir d'un révolutionnaire marxiste nommé Laurent Désiré Kabila. Avant que vous nous disiez de quelle manière il vous a marqué, Géraldine Tobé, j'aimerais qu'on entende sa voix. J'ai pris un moment particulier, c'était lors d'une conférence de presse en 1998, lors de la Deuxième Guerre du Congo. C'est un conflit, je le rappelle, qui est né de tensions entre son nouveau pouvoir et les nations qui l'avaient aidé à accéder au pouvoir, Rwanda en tête.
Nous nous sommes rendus compte que le peuple congolais était, une fois encore, absent de préoccupation de ceux qui cherchent les droits humains. Son calvaire ne compte pas du tout. On se soucie des agresseurs, des tueurs, ce sanguinaire que tout le monde connaît. Et on dit, lorsqu'ils ont voulu se défendre à Kinshasa, on dit qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, les Congolais. Parce que s'ils se défendent, ils tuent les Tutsis. Il fallait donc que le peuple congolais ne se défendra pas et que maintenant n'ose pas libérer son pays. Parce que chaque geste dans la direction d'expulser l'ennemi est vu comme une tentative de créer un génocide. Nous avons écouté avec consternation ce genre d'abomination. Et c'est une injustice insupportable.
Pour un seul majeur, la voix de Laurent Désiré Kabila dans un moment délicat de sa gouvernance. Donc je ne vais pas vous interroger évidemment sur cet aspect-là. Mais vous, Géraldine Tobé, qui nous avez déjà un peu esquissé cette enfance difficile, pour ne pas dire plus, maléfique par certains aspects. Vous, petite fille, pendant ces années Kabila, de quoi vous vous souvenez par rapport à son passage?
Moi, je me souviens quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, il y avait une sorte de guerre. Bon, à l'époque, j'étais encore vraiment gosse, où on était obligé de fuir vers une autre commune, parce que là où nous étions, c'était impossible de rester. Il y avait des rebelles, des Rwandais, voilà, il y avait des balles, ainsi de suite. Alors, nous étions dans la commune d'Njili. On devrait quitter Njili pour aller à Lemba. Njili et Lemba est séparé par la rivière qu'on appelle Mayanjili. Alors, du coup, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait rien du tout. Alors, des gens faisaient les pieds. Je me rappelle, mon frère aîné m'avait mis sur ses épaules et on traversait, c'était vers 19h30, à la rivière Mayanjili, à pied, pour aller se réfugier dans une autre commune. Donc, voilà un peu
l'image que vous gardez,
oui, oui.
Sans parler de ce moment où il est assassiné, sa mort en 2001, c'est aussi un souvenir?
Oui, tout à fait. Moi, personnellement, ça m'avait beaucoup touchée parce que je voyais que c'était un président qui avait quand même des bonnes initiatives pour le Congolais. Mais après, c'est la politique que faire. Voilà, nous, on est dehors, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais étant qu'artiste congolaise, je dirais que le problème du Congo, ce n'est pas seulement le président, mais c'est aussi, ça concerne aussi nous, les Congolais. C'est important que chacun de nous puisse apporter sa pierre de construction pour notre pays.
Slik kimliğinizi bildirdiğin bir nesi var mı?
Est-ce que vous portez un objet qui a un lien avec vos origines?
D'abord, je dirais que les sons qui est à moi.
Les sons?
Oui, les sons.
Le sang?
Oui, le sang. voilà.
En fait, je suis un peu curieuse. Je voudrais savoir si c'est un peu comme une petite biennale d'art brut chez vous à la maison. Est-ce qu'il y a des objets particuliers, des tableaux particuliers? Comment c'est chez vous?
Pour commencer, moi, je vis loin de ma famille. On s'est séparés il y a cela 10 ans déjà. Chez nous, à Kinshasa, au Congo, on n'a pas une sorte de culture de garder des objets à la maison. Parce que je me rappelle quand l'église des réveils prenait l'ampleur, il y a beaucoup de familles qui avaient des objets à la maison. Tous ces objets-là étaient vidés de leur maison, étaient jetés et d'autres étaient même brûlés.
Est-ce que c'est important la question des origines pour vous?
Oui, je pense que c'est très important.
Vous dites ça alors que peut-être un certain Mobutu est en train de vous écouter de là où il se trouve. Mobutu, la question des origines, la question de l'authenticité, la question de la zaïrianisation.
Voilà.
Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit votre réflexion d'artiste, ce passage comme ça?
Ah oui, tout à fait. Sinon, sur le point de la zaïrianisation, moi je trouve que c'est important parce que il faut s'habiller avec sa culture.
Ah
c'est
oui?
Ça qui nous valorise.
Et alors, votre prénom Géraldine, il n'est pas très authentique?
Bien sûr que oui. Moi, je n'y peux rien parce que je suis un enfant qui est né dans une famille religieuse et puis on m'a donné les noms. Mais voilà, ça c'est un prénom, mais mon nom c'est Tobé qui est un nom
congolais.
Congolais. Mmh. Et donc, du coup, à partir de cette philosophie de Mobutu, moi, personnellement, ça me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est important que les artistes puissent travailler là-dessus. Aujourd'hui, il y a la question de la restitution.
La restitution par la France du patrimoine africain, avec cette toute petite difficulté, parce qu'on suit ça des deux côtés de la rive, cette question-là.
Ouais,
hein.
Ouais.
D'un côté, on observe apparemment une volonté politique du président Macron, et puis de l'autre, il y a quand même des verrous juridiques avec des lacunes du droit par rapport à des objets qui ont été acquis de façon illicite pendant la colonisation. Voilà, je referme la parenthèse.
D'accord.
Mais les artistes de Kinshasa, ils ont quelle réponse par rapport à cette question de la restitution?
Cette restitution, c'est d'abord pour les Congolais. Parce que quand la restitution va se faire, Alors, les objets vont arriver au musée. Alors, normalement, c'est aux Congolais d'accueillir ça. Ici, par exemple, moi, de temps en temps, quand je vais dans des musées, je vois des parents venir avec leurs enfants dans des musées pour visiter les œuvres d'art. Alors, c'est une façon qui permet aux enfants de se familiariser avec l'art. Mais chez nous, on n'a pas l'éducation culturelle, c'est ça le problème. Voilà. Les ancêtres, c'est encore lourd pour les Congolais. Parce que moi-même, je suis mal comprise. Une fois, j'ai fait une exposition dans la rue, j'ai exposé une toile, mais je vous dis que j'ai été failli à être lapidée. Et surtout, pour les Congolais, quand il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, là, on ne discute pas directement. C'est placé comme une histoire de la sorcellerie.
On va jeter une oreille sur ce documentaire incroyable dont vous faites partie, Géraldine Taubé, documentaire de Renaud Barré intitulé « Système K ». On connaît le système D en France, et bien il y a le système K à Kinshasa. C'est incroyable à voir, on voit la capitale congolaise qui est dans une sorte de chaos absolument indescriptible, et c'est dans ce chaos que les artistes comme vous de la scène contemporaine utilisent leur propre corps avec des pièces détachées d'appareils complètement HS, hein, pour les détourner de leur fonction et créer une œuvre qui se veut vivante, géante, comme une sculpture, en aluminium, parfois avec des douilles de balles. C'est absolument inouï à voir. Et c'est comme ça qu'au milieu des passants, les artistes déambulent et envahissent la ville.
Kinshasa pour nanga isa ville y a performance nion surtout et celle maranetti performance
ben fou na Kinshasa vraiment ça n'en ôte donc ce peuple y en a pour na olobela.
Certains d'entre nous récupèrent et recyclent les déchets d'une consommation à laquelle ils n'ont pas accès.
Tu dois t'habiller, tu dois manger, tu dois faire des arts. T'as des envies qui sont illimitées. Illimitées. C'est ça le système K.
Et à la fin de cette bande-annonce de Système K, on voit votre visage à vous, Géraldine Taubé, soufflé sur une bougie, n'est-ce pas? Alors, quel sens elle a, cette présence artistique comme ça, faite du recyclage de déchets dans les rues de Kinshasa? C'est de la contestation, en fait?
Quand les performances se font, chaque performeur a un message qu'il donne à travers cette performance. Par exemple, là où il y a des dames qui disent que voilà, on est dans un pays riche, on a des grandes barrières qui pourraient nous donner l'électricité 24/24 et de l'eau, mais on en manque. Moi, par exemple, l'appartement où je loue, je suis tout près du fleuve Congo, mais on reste parfois 2 mois et demi sans l'eau. Mais ça, c'est déjà une grande performance. Donc, c'est comme si vous restez à côté d'une rivière, mais vous manquez quoi à boire. Ouais. Sinon, pour moi...
Il y a aussi le problème de la liberté d'expression qui est
oui,
abordé.
Oui. Ça nous pose problème. Surtout nous. Moi, par exemple, l'artiste que je vous parle, pendant la règne de Kabila fils, on vivait dans la peur, dans la terreur. On ne savait pas dire des choses parce qu'il y a même des militaires qui fouillaient nos appareils téléphoniques. Alors, s'ils découvrent où il voyait un message qu'on a cité président, tu avais des sérieux problèmes. Moi, par exemple, je volais dans un collectif d'artistes, Bukutani, à Kinshasa, qui est non loin de la radio nationale congolaise. Alors, à l'époque de Kabila, il y avait des militaires qui circulaient parce que c'est un endroit stratégique. Plusieurs fois, ils sont venus me trouver en train de faire la série avec des crânes. Alors, ils me disaient qu'ils me tenaient à l'œil. Ils me disaient qu'ils comprennent bien nos sales jeux parce qu'ils savent que les artistes sont comme des monteurs qui stimulent un peu la population. On ne va pas parler, mais par ce qu'on va présenter comme performance, comme œuvre d'art, directement, il y a des messages qui se transmettent.
Alors, il y a beaucoup d'artistes congolais qui sont importants pour vous. On pourrait citer Freddy Timba qui fait des sculptures à partir de douilles de balles. Mais si on zoome un petit peu plus largement, j'aimerais bien savoir, dans l'histoire de l'art européen, s'il y a un nom qui se dégage dans votre panthéon à vous, Géraldine Taubé.
Ah d'accord. Moi, dans l'histoire de l'art européen, je dirais le tout premier artiste qui est resté dans ma tête, c'est Michel-Ange. Parce que c'est grâce au dessin de Michel-Ange que j'avais appris comment on fait les dessins, comment on dessine, comment on peint. Et avec le temps, avec l'art contemporain, alors je suis tombée amoureuse du travail de Christian Boltanski, un grand artiste que je respecte beaucoup.
Donc beaucoup d'engagement, beaucoup de transgressivité de votre part, beaucoup de sensibilité et l'humour dans tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais vous m'avez parlé à un moment donné d'une certaine Florence Foresti.
Ah. Les mères de famille nombreuses, mais c'est mes héroïnes. Mais c'est les forces vives de la nation, les amis, attention. Ah non, mais je te jure, quand tu regardes bien, quand t'as réussi à élever deux, trois gosses pas trop de guingois, mais c'est... T'es une championne, je veux dire, c'est la meilleure armée du monde. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on continue à envoyer des pauvres négociateurs du GIGN aux preneurs d'otages, là, que ça dure des plombes. Putain, m'a envoyé une mère de famille nombreuse, elle te règle le problème en deux-deux. On a autre chose à foutre. Ah, je te le dis, surtout, surtout si c'est une maman calme. Messieurs, j'ai fait au plus vite. Comment allez-vous? Colonel, passez-moi le téléphone. Colonel, si, vous avez assez travaillé. Allez vous reposer, profitez-en pour aller boire un grand verre de lait. Allô, forcené? C'est maman calme à l'appareil. Tiens, comment tu t'appelles d'ailleurs? On ne m'a pas dit ton petit nom. Francis? Oh, c'est un très joli nom, Francis. Dis-moi, Francis, qu'est-ce que c'est que ce petit caprice que tu nous fais? Qu'est-ce que j'entends là? Mais c'est très vilain. Mais c'est très vilain de vouloir tuer des gens, Francis. Ça peut faire très bobo tête, oui. Qu'est-ce que tu veux exactement? Oui, je sais. Tu as demandé 1 million d'euros, je sais. Ils sont juste là avec moi. Seulement, il va falloir être très, très sage, Francis. D'ailleurs, est-ce que tu t'es lavé les dents ce matin, Francis? Je crois pas, non. Je suis très déçue, Francis. Non, je ne fais pas de cadeau aux garçons qui ne se lavent pas les dents. Alors montre-moi que je vois. Mets-toi à la fenêtre que je vois tes dents. S'il te plaît, voilà, fais-moi, je te vois, fais-moi un grand sourire. Oh, je suis fière de toi. Butez-le.
D comme douce France.
Très joli menu, ça, douce France, avec une maman calme qui a des basses de baryton à la Florence Foresti. Vous êtes morte de rire, oui. Géraldine Taubé. Vous êtes sensible à cet humour?
Ben oui, bien sûr que oui. Surtout la partie où Florence, elle dit que elle fait partie de l'eau de femmes où elle attire les hommes dans les sens contraires. Les hommes ne viennent pas comme ça, mais... Alors du coup, écoute, Florence, moi aussi, j'en fais partie de cette eau.
Ah, oui.
Non, mais sinon, j'aime bien sa comédie.
Qu'est-ce que ça représente, la France, Paris, l'Europe, pour vous?
Voilà, la France, c'est... Surtout Paris, c'est une ville très, très belle, illuminée. Je trouve que c'est historique aussi parce qu'il y a pas mal de bâtiments qui datent des siècles. Et avec voilà, l'histoire, ainsi de suite. Il y a la lumière partout, il y a des trains qui passent, ainsi de suite. Pour moi, l'Europe, c'est un continent que j'aime beaucoup. Voilà.
Mais y vivre, est-ce que c'est une tentation?
Je dirais que rester en Europe, vivre en Europe, pour moi, ça serait compliqué. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que le Congo a besoin de tout le monde. Moi, par exemple, au Congo, je voulais dans un collectif d'artistes où je suis comme le moteur.
Beaucoup d'années, artistes réunis. Hein.
Voilà, artistes réunis où j'ai initié pas mal de projets, entre autres comme un projet avec les handicaps mentaux à l'hôpital à psychiatrie de Kinshasa. Et actuellement, là, je travaille sur la mémoire des ancêtres, évidemment, que j'ai élargi maintenant là. Le projet a la forme d'un projet panafricain. La première étape, c'est une résidence des artistes africains. Il y a du Camerounais, des Sénégalais, des Brazzavillois, ainsi de suite. Après, il y aura une création. Donc, le but de ces projets, c'est de mettre les artistes en face de l'histoire passée pour que les artistes puissent s'en servir, de reconstruire le morceau. Des fragments pour construire l'histoire du futur. Après, il y aura une exposition qui sera présentée au musée de Kinshasa. Après, ça serait présenté au musée à Dakar. Et après, on verra bien si on pourrait les remonter vers l'Europe. Donc, du coup...
Du coup, vous êtes une force vive, on a besoin de vous là-bas. Mais c'est magnifique parce qu'en même temps, on imagine bien que les conditions de vie pour un artiste à Kinshasa sont terribles.
Surtout pour une femme.
Vous êtes... Surtout pour une femme, dites-vous. Donc, vous êtes dans une posture presque sacrificielle.
Je sais pas.
Votre place est là-bas.
Oui, ma place est là-bas parce que...
Vous vous sentez un peu en mission?
Oui.
Ouais.
Oui.
Est-ce que, en tant qu'artiste, ce sera ma dernière question, vous vous sentez délivré, c'est un des mots clés de votre vie, de certaines pesanteurs du pays?
Je dirais que oui, je suis en voie de délivrance. En même temps, je commence à sentir cette délivrance aussi parce que... Depuis que je suis artiste, ça m'a aidé à s'extérioriser.
Mmh. Voilà. Est-ce que vous êtes une femme artiste congolaise libre?
Oui.
Ou en voie?
Non, je suis libre.
C'est compliqué, donc, hein. Vous aviez l'air de dire que c'était quand même compliqué cette affaire-là. Vous n'êtes pas encore Florence Foresti.
On veut du soleil.
Ngayo ngaye na sala bonyo tuzalise papa ya wana seo tokole kao tinanini na fingao kukinia ya we salama oba tovali nganae.
On veut du soleil. On veut du soleil dans mon cœur. Beaucoup de couleurs pour nos âmes.
Païba, oué là-bas, Zangao, Basuka wapio. Kokimambangu bangu yo, Kosukadi, Kende malembeo. Salana bolinguna, Katia motemao. Yangonde fungola ya bomo na wela o tinariye kilianganya ya yawe kende malembe o
tika kobo manao yeah. On veut du soleil dans nos cœurs, beaucoup de couleurs pour nos âmes. On veut du soleil.
Je crois que je n'ai pas remercié Géraldine Tobé. Merci Géraldine et merci aussi pour cette belle flamme congolaise. C'est encore meilleur d'ailleurs avec un Lokwa Kanza. Si vous aussi vous nous aimez un petit peu beaucoup passionnément, le conseil maison de la semaine, vous le connaissez. Abonnez-vous en cherchant notre émission en sol majeur sur votre application préférée. Et si vous êtes vraiment addict, vous nous laissez un petit commentaire. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on adore ça. Et puisque c'est le grand amour, on se retrouve la semaine prochaine autour d'une rediffusion avec Égère Scharf. À la semaine prochaine.